Les cours du Collège de France, Luigi Rizzi, chaire linguistique générale.
Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous rappeler le calendrier un peu spécial de la semaine prochaine. Donc il y aura exceptionnellement deux leçons en deux jours consécutifs, le jeudi 29, même horaire, 10-11-30, même salle. Et puis, vendredi 30 juin, même horaire, même salle, okay, comme d'habitude. Le jeudi, il n'y aura pas de séminaire. Le vendredi, il y aura le dernier séminaire de cette année du professeur Guglielmo Cinque. Okay, ça, c'est donc l'organisation pour la semaine prochaine. On a un peu discuté la dernière fois de l'idée de base de la syntaxe paramétrique, c'est-à-dire un système qui est fondé sur une notion de grammaire universelle qui consiste de deux types d'entités, des principes qui expriment les propriétés générales, propriétés de portée universelle qui sont respectées par toutes les langues, et des paramètres. Les paramètres sont des points de choix, normalement des points de choix binaires qui expriment les propriétés de variation. Une grammaire particulière, la grammaire d'une langue particulière, la grammaire du français, du chinois, la grammaire d'un dialecte, par exemple, est la grammaire universelle. Donc la grammaire universelle fait partie intégrante de la grammaire d'une langue, mais avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Donc il y aura une certaine manière de fixation paramétrique qui correspondra au français, une autre qui correspondra à l'italien, une autre qui correspondra au chinois, une autre qui correspondra à un dialecte de l'italien, par exemple, et ainsi de suite. Dans cette manière de voir les choses, l'acquisition de la syntaxe est une opération de fixation de paramètres. Donc l'enfant est confronté à l'expérience, est confronté à des données linguistiques, et sur la base de cette expérience, l'enfant choisit, fondamentalement. Il décide quelles sont les valeurs paramétriques du système qui lui est présenté. Nous avons illustré ce système en discutant le paramètre du sujet nul, qui a été le premier paramètre étudié vraiment en détail dans cette manière de voir les choses, et c'est toujours un thème de débat actuel. Il y a toujours, même récemment, des modèles, des idées qui ont été proposées en relation avec ce pattern, cette particulière configuration de données qui est extrêmement attrayante pour une tentative d'expliquer de manière de principe une structure de variation. Alors, voyons les données de base que nous avons discutées la dernière fois. Ici, je suis un peu l'histoire de l'étude de ces phénomènes, et donc on part de la comparaison des langues romanes, et ensuite on étend cette comparaison à d'autres groupes linguistiques, d'abord les langues germaniques, ou plutôt on compare immédiatement ce qui se passe dans certaines langues romanes avec l'anglais, et puis on étend aux autres langues germaniques, et puis on verra le fonctionnement par rapport au sujet nul d'une série d'autres langues de plus en plus éloignées de l'anglais européen. Donc ce qu'on observe, que dans certaines langues, il y a une possibilité d'alterner une structure où le sujet est prononcé, comme io en italien, et il a aussi sa variante zéro, donc un A prime parle italien, par exemple, est une phrase parfaitement possible. Même chose en roumain, j'ai pas mis des exemples en espagnol, en catalan, en portugais de Portugal, c'est exactement la même chose. Par contre, si vous prenez le français, le sujet est obligatoire, obligatoirement prononcé, donc je parle l'italien, pas parle l'italien comme déclarative. Même chose en anglais, speak Italian, c'est pas une déclarative possible de l'anglais. Ce sujet nul peut être référentiel, comme dans ce cas, donc se référer à un individu dans le domaine du discours, par exemple le locuteur, ou bien être explétif ou non référentiel, donc avec un verbe atmosphérique, comme pleuvoir, par exemple, on a piove, ploua, en roumain, etc. Tandis que dans les langues comme le français et l'anglais, il faut prononcer le pronom sujet. Puis il y a d'autres propriétés qui sont un peu plus éloignées de cette propriété de base, qui est la possibilité d'inversion, ce qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire on parle de début des années 80 en gros, inversion libre du sujet. Donc l'alternance, apparemment libre, mais on verra que ce n'est pas tout à fait libre, c'est plutôt une alternance qui dépend de certaines conditions discursives, qu'on observe en italien entre Gianni ha telefonato Gianni, les deux sont effectivement possibles, parfaitement grammaticales, même chose en roumain, en espagnol, etc., etc., mais pas en français, ha téléphoné Jean, c'est pas la forme normale, il y a l'inversion, on a dit en français, mais c'est une inversion d'un type différent qui est déclenchée par quelque chose dans la structure. En anglais, certainement pas possible. Telephone John, ce n'est pas une alternative possible, John Telephone. Puis cette autre propriété, à première vue un peu plus complexe, même à deuxième vue un peu plus complexe, qui est l'effet complémentaire trace, qui avait été découvert par David Perlmutter, justement, dans sa thèse, en faisant la comparaison entre des langues comme l'espagnol et des langues comme l'anglais. Dans des langues comme l'anglais ou comme le français, si vous partez comme ligne de base de quelque chose qui a une structure subordonnée, par exemple, tu crois que quelqu'un viendra, il n'est pas possible, sans rien modifier dans la structure, de former une question sur le sujet. Donc, qui crois-tu que viendra? Il y a quelque chose de bizarre dans cette structure. Même chose en anglais. Who do you think that will come? Ce n'est pas une structure normale. Tandis que l'extraction de l'objet serait parfaitement possible, même en anglais et en français. Et tandis que dans des langues comme l'italien ou le romain, il n'y a aucune distinction, aucune asymétrie entre sujet et objet. On peut sortir l'objet, mais aussi le sujet d'une phrase subordonnée et obtenir sans aucune difficulté quelque chose comme 4A, qui credi che verrà. En italien. Voilà. Et puis, il y a cette cinquième propriété qui avait été discutée en particulier par Tarald Taraldsen dans ses travaux, linguiste norvégien, que cet ensemble de propriétés, en particulier la première, le fait de pouvoir avoir le sujet nul, était lié à la richesse de l'expression morphologique de l'accord. Donc, si vous regardez simplement la structure du paradigme verbal en italien au présent de l'indicatif, vous avez un paradigme très bien différencié, parlo, parli, parla, etc. Donc, en effet, six formes distinctes. En roumain, c'est presque aussi bien différencié, même s'il y a un syncrétisme systématique. Dans des langues comme le français, comme l'anglais, c'est beaucoup plus pauvre. Si vous prenez d'autres langues, c'est encore plus pauvre. Par exemple, si vous prenez les langues scandinaves, continentales, le suédois, par exemple le danois, etc., vous n'avez même pas la petite trace d'accord qu'on garde au présent de l'indicatif de l'anglais avec la distinction entre speak et speaks. Okay, donc il y a cette forte tendance à avoir ce type de configuration de données en relation avec la richesse du paradigme d'expression morphologique de l'accord. Et on peut tenter d'exprimer tout cela en postulant au moins et idéalement au plus une différence entre ces systèmes, une différence primitive, et puis obtenir l'ensemble des différences en termes d'interaction avec des principes qui restent constants. Donc une manière d'aborder la question du paramètre, c'est de dire qu'il y a la possibilité, la grammaire universelle offre la possibilité d'un pronom non prononcé, appelé pro, comme ça, qui est légitimé par la flexion verbale, oui ou non, avec la tendance à donner la réponse oui, si la flexion verbale est riche dans le sens présenté intuitivement, et non si la flexion verbale n'est pas riche. Ça, c'est le cadre qu'on avait à l'origine, et ce cadre devait interagir avec certaines propriétés générales. Par exemple, une propriété générale importante pour ce type de configuration de données, c'était l'obligatoriété de la position sujet comme propriété structurelle. Le fait que la position sujet est une position obligatoire, indépendamment des propriétés sémantiques du prédicat, par exemple. Tandis que pour l'objet, ce n'est pas comme ça. Un objet, ce n'est pas possible ou possible optionnellement ou obligatoire selon la nature du verbe. Donc partir ne prendra pas un objet direct, lire pourra le prendre éventuellement, casser aura besoin d'un objet direct, donc Jean va casser ça, c'est bon, mais sans objet direct, il y a quelque chose qui manque. Tandis que pour la position sujet, non, la position sujet est toujours obligatoire comme propriété structurelle de la phrase. Et donc, s'il n'y a pas de rôle thématique, de rôle argumental, par exemple, on utilise un verbe atmosphérique, de toute façon, dans une langue comme le français ou comme l'anglais, il faudra exprimer le sujet. Une manière d'exprimer tout cela, ici je mélange un peu les idées de l'époque avec des idées beaucoup plus récentes, c'est de dire que dans la structure de la phrase, il y a une couche dédiée au sujet. Et cette couche est obligatoire, aussi obligatoire que le temps. Donc vous avez dans les structures phrasales typiquement l'expression du temps, présent, passé, futur, et vous avez aussi une couche structurelle qui dit « il faut une position sujet ». Fondamentalement, quelque chose comme ça. Et cette position doit être remplie. Alors voyons par quelque chose de légitime dans la langue. Voyons ce que cela donne. Donc supposez, prenez un cas de l'anglais, par exemple, prenez un verbe mono-argumental comme venir, par exemple. Donc on partira de quelque chose comme will come John. Ensuite, il faut nécessairement remplir cette position au sujet. La seule possibilité, c'est de le faire par le mouvement du seul argument disponible, obtenir « John will come ». Même chose en français. En italien, on aurait cette option, donc on obtiendrait « Gianni verrà », par exemple. Mais il y a une option supplémentaire, qui est de boucher, pour ainsi dire, la position sujet, par le pronom « nul », qui est toujours disponible, qui est toujours possible dans cette configuration, ce qui permettra de garder le sujet thématique dans une position plus basse dans l'arbre. Donc ceci donnera la structure à inversion type verra Gianni. Donc la question de l'inversion peut être réglée de cette manière. Ensuite, la question de l'effet complémentaire trace, l'extraction possible du sujet d'une phrase subordonnée. Ici, on peut observer que, en considérant le mouvement, il y a des positions qui sont typiquement des positions de transit, c'est-à-dire de positions où le mouvement peut et doit transiter pour se déplacer à des positions ultérieures et plus hautes. Donc il y a une série de positions de transit, et il y a aussi des positions d'arrêt définitif, une sorte de terminus, n'est-ce pas ? Donc si un élément est déplacé à une position d'arrêt, il y a sur la position d'arrêt un effet de gel et l'élément qui a été déplacé à une telle position ne pourra pas continuer le mouvement. Donc position de transit, position d'arrêt avec effet de gel. Le sujet est une position typique d'arrêt, une position typique à laquelle certains éléments peuvent bouger. Par exemple, pensez à la manière dans laquelle on forme un passif, on déplace l'objet en position sujet, qui est la position d'arrivée finale de l'élément. Donc position d'arrêt, position transit, effet de gel, opposition d'arrêt. Donc on peut essayer maintenant de traiter les effets complémentaires traces. Donc pourquoi en français on ne peut pas avoir des choses comme « qui penses-tu que devrait faire cela ?» sans rien changer dans la structure, ou en anglais, pourquoi on ne pourrait pas avoir, ne pourrait-on pas avoir la structure correspondante? Eh bien, parce que ce qui, à un moment donné, devra être bougé à la position sujet, devra se trouver dans la position sujet, qui est une position d'arrêt, où il sera gelé. Donc, il ne pourra pas continuer le mouvement. D'où l'effet complémentaire trace dans ce type de langue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une langue comme l'italien? Pourquoi peut-on dire des choses « qui pensi che dovrebbe fare questo »,« qui penses-tu que devrait faire cela » Eh bien, on pourrait dire, peut-être l'effet de gel est paramétrisé. Mais ce ne serait pas très satisfaisant parce qu'on veut vraiment essayer de mettre ça en relation avec le paramètre du sujet nul, étant donné qu'on observe cette distribution d'effets par laquelle on n'observe pas de tels effets dans les langues à sujet nul. Alors on peut toujours utiliser la même méthode, c'est-à-dire dans une langue comme l'anglais ou comme le français, comme on l'a dit, vous avez que l'élément, par exemple le seul élément nominal, étant donné un verbe comme venir, doit se déplacer à la position de sujet pour satisfaire cette exigence, il est gêné dans cette position, donc il ne peut pas continuer. Mais dans une langue comme l'italien, il y a toujours la possibilité de boucher cette position par notre pronom explétif ou non référentiel, non prononcé, ce qui rend l'argument disponible une sorte d'agent libre. Donc l'élément ne sera pas forcé à passer par cette position, il n'y aura pas d'effet de gel, il pourra être déplacé à une position plus haute, ce qui permettra sans problème des structures comme qui credi, che, verra. Ok, donc de cette manière, on peut ramener tout simplement et très directement l'absence d'effet complémentaire trace dans des langues comme l'italien, comme l'espagnol, etc., à la propriété fondamentale, au paramètre du sujet nul. Ce type de propriété, on le retrouve dans d'autres constructions. Ce n'est pas du tout une caractéristique des phrases déclarative, de phrase introduite par que, n'est-ce pas? On la retrouve par exemple dans les questions indirectes. Prenons comme ligne de base une question comme 2A en français. Tu ne sais pas si le mécanicien peut réparer la voiture. Essayons de sortir l'objet ou le sujet. Dans le cas d'extraction de l'objet, on obtient quelque chose dans une interrogative principale comme 2B. Quelle voiture ne sais-tu pas si le mécanicien peut réparer ? C'est une structure un peu douteuse. Certains locuteurs diront, bah, plus ou moins ça peut aller. D'autres locuteurs diront, c'est pas très bon. Et on peut très bien comprendre pourquoi. Ce petit point d'interrogation suggère que c'est une structure bizarre. Ce n'est pas tout à fait impossible, mais c'est quand même une structure qui a une bizarrerie. On peut comprendre la nature de cette bizarrerie qui a à voir avec le fait qu'on sort un élément interrogatif, quelle voiture, d'une structure, d'une phrase interrogative subordonnée, ce qui donne lieu à un effet d'intervention qu'on a brièvement évoqué à d'autres occasions, et ces effets d'intervention rendent la structure moins que parfaite. Mais il y a quand même une asymétrie claire entre extraction de l'objet, douteuse, extraction du sujet, encore moins bonne. Donc essayez et réfléchissez sur vos intuitions sur le français, si le français est votre langue maternelle, de C. Quel mécanicien ne sais-tu pas si peut réparer la voiture ? C'est encore moins bon que l'exemple précédent. Donc ici, voyez, normalement, on a affaire à des jugements qui sont noirs et blancs. Le système est typiquement structuré pour caractériser des jugements très très clairs. Ou bien c'est possible, ou bien c'est impossible. Ou bien la grammaire engendre une structure, ou bien elle n'engendre pas. Mais la réalité empirique de la langue est très différente et riche de zones grises dans lesquelles quelque chose est un peu plus acceptable que quelque chose d'autre, mais pas optimal, n'est-ce pas? On est typiquement dans ce type de situation. Donc il faut avoir affaire tout le temps avec des situations de ce type et des jugements comparatifs entre deux structures sont extrêmement importants. Et il faut utiliser des techniques aussi, si possible, pour donner une dimension quantitative à des telles situations. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant est que si on regarde exactement les mêmes phrases dans une langue comme l'italien, la symétrie entre extraction du sujet et extraction de l'objet disparaît complètement. Donc, ligne de base, non sai se il meccanico potrà riparare la macchina, extraction de l'objet, che macchina non sai se il meccanico potrà riparare, douteuse, extraction du sujet, 3C, che meccanico non sai se potrà riparare la macchina, même niveau. Il n'y a pas du tout une asymétrie entre ces deux types de phrases. En anglais, par contre, c'est exactement comme en français. Il y a une asymétrie claire au niveau d'acceptabilité relative de ces phrases. Voilà, donc il y a ces effets, on a vu comment on peut les traiter. Maintenant, les langues, en général, essayent de trouver des moyens pour former des questions sur le sujet d'une phrase subordonnée. N'est-ce pas ? C'est très utile de pouvoir faire cela. Alors, comment faire ? On verra que les langues utilisent en gros trois stratégies distinctes pour résoudre ce problème. Donc, une langue comme l'anglais utilise une stratégie de réduction de structure. Une langue comme le français utilise une stratégie d'adjonction de structure, donc c'est un peu l'inverse. Et puis, on verra un troisième type de stratégie encore différente. Alors, voyons ce que l'anglais fait. Nous avons dit quelque chose comme « un »,« who do you think that will come ?» C'est pas bon. Mais comment améliorer la structure ? Il y a une manière de la rendre parfaitement possible en anglais en effaçant le complémentaire. Donc, quelque chose comme « deux ». Who do you think will come? Parfaitement possible en anglais. Ok? Si vous n'êtes pas locuteur natif de l'anglais, vous n'aurez pas de jugement. Typiquement, on a des jugements sur sa propre langue maternelle. À n'importe quel niveau, vous pouvez connaître une langue, vous n'aurez pas de jugement comparable au jugement du locuteur natif. Donc, il faut toujours essayer de vérifier ces jugements, non pas sur ce qu'on a appris à l'école d'une manière ou d'une autre, ou dans des cours de langue, mais dans la langue maternelle que chacun de nous a. Et là, on pourra voir si notre langue maternelle se comporte d'une manière ou d'une autre manière. En tout cas, l'anglais utilise cette stratégie d'effacement du complémentaire qui rend la structure parfaite. Et on peut sortir le sujet dans ce cas. Pourquoi ? Ben, une possibilité, il y a plusieurs possibilités qui ont été envisagées dans la littérature, mais la possibilité qui est discutée dans un article que j'ai écrit avec Urshlonsky, c'est de penser que peut-être l'effacement du complémentaire a un effet beaucoup plus destructif que la simple omission de l'élément qui correspond à date, et qui entraîne aussi la réduction de toute cette partie de la structure qui inclut aussi la fameuse position sujet, donc la position qui doit nécessairement être remplie. Donc si toute cette partie entourée dans ce carré ou rectangle vert disparaît, évidemment, on n'a plus l'effet de gel parce qu'on n'a plus la position qui entraînerait l'effet de gel. Et donc, un élément comme le seul argument disponible peut être déplacé sans donner lieu à des effets de gel dans cette structure et on peut obtenir sans problème des configurations comme deux. Ça, c'est l'une des analyses possibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en français ? Évidemment, le français standard n'a pas la possibilité d'omettre le complémentaire. Donc, que est toujours obligatoire en français. Donc, il doit utiliser un autre moyen, une autre méthode. Pourquoi ne peut-on pas dire « Quel directeur crois-tu que recevra les candidats ?» Ben, pour la raison qu'on a dit, effet de gel ici. Mais pour beaucoup de locuteurs du français, il y a une manière d'améliorer la structure, mais à un niveau un peu marginal, en produisant une configuration comme 3. « Quel directeur crois-tu qui recevra les candidats ?» Donc en utilisant la forme « qui » à la place de « que » ici, pour certains locuteurs, la structure s'améliore, quoique ça reste relativement douteux. Il y a eu beaucoup de littérature sur cette règle découverte de nouveau par Perlmutter il y a longtemps et qui est présentée par exemple dans la thèse de Frédéric Berthelon qui est dévouée à ce phénomène particulier. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la question, mais je vais simplement adopter l'approche développée par Taraldsen, toujours le même, mais dans un autre article. Selon Taraldsen, ce qui se passe, c'est que « qui » dans cette configuration doit être analysé comme « que » plus « i », où ce « i » est une sorte d'élément pronominal qui permet de satisfaire, ici je simplifie considérablement les choses, qui permet de satisfaire l'exigence de l'obligatoriété de la position sujet. Donc ce « i » dans la structure qui aurait le même effet que le pronom nul dans une langue comme l'italien. Il remplirait cette position et donc il permettrait de sortir l'élément qui correspondrait au sujet de la phrase, en effet, et donc d'obtenir au moins marginalement un exemple comme 3. La marginalité est due à des raisons qui peuvent être expliquées, et Frédéric Berthelot s'occupe de cela dans sa thèse. Donc ici, la stratégie utilisée par la langue, c'est de rajouter quelque chose, essentiellement. L'anglais, d'enlever quelque chose. Ici, rajouter quelque chose. On peut essayer, comme je disais, de donner une dimension quantitative à ce phénomène. Par exemple, en interrogeant un grand nombre, relativement grand nombre de locuteurs, et en demandant d'assigner, donner des votes aux phrases, n'est-ce pas ? Supposons d'utiliser l'une de ces échelles, qu'on appelle l'échelle de Likert dans ce cas, et dire, bon, supposons une échelle de 1 à 5, donc 5 pour quelque chose de parfait, 1 pour quelque chose de mauvais, combien de points est-ce que tu donnerais à une structure comme 1, extraction de l'objet, qui crois-tu que le directeur recevra ? Alors vous voyez que en faisant les moyennes, on arrive à 4 et quelques, donc une bonne note, pour ainsi dire. Puis essayons quelque chose comme l'extraction du sujet. Qui crois-tu que recevra les candidats ? Vous obtenez une assez mauvaise note ici, 1,5 en moyenne. Okay ? Donc il y a un fort contraste entre ces deux. Et si vous regardez la structure « Qui crois-tu qui recevra les candidats ?» avec cette fameuse règle qui transforme « que » en « qui » dans cette position, vous obtiendrez une sorte de note intermédiaire, environ 2,5 ou 2 quelque chose. Donc de cette manière, on peut arriver à donner une dimension quantitative à cette zone grise du jugement, et puis on peut essayer de l'interpréter théoriquement. Remarquons que le français utilise de manière un peu marginale, pour les cas que nous avons considérés, un mécanisme qui est tout à fait clair et net dans les structures relatives. Si vous avez une relative sur le sujet comme 1A ou sur l'objet comme 1B, vous avez que l'élément qui introduit la relative est respectivement qui ou que. Donc voilà le directeur qui recevra les candidats, voilà les candidats que le directeur recevra. Donc cette règle qui est totalement productive et parfaite pour tous les locuteurs du français dans le cas de relative s'applique un peu marginalement pour sauver des structures qui seraient autrement qui impliqueraient une déviation dans le cas d'extraction d'une déclarative subordonnée. Donc vous avez cet effet un peu marginal de voilà le directeur que je crois qui recevra les candidats. Par rapport à voilà les candidats que je crois que le directeur recevra, ou dans le cas de l'objet, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a aucune nécessité de passage par une position de gel, évidemment. Donc, ça, c'est le type de contraste. Voilà donc le mécanisme auquel on peut penser. Remarquons que si on regarde d'autres langues, on trouve des manières très explicites de manifester ce que Tarlsen a supposé de manière spéculative pour le français. Par exemple, en danois, vous observez que le danois peut utiliser et la stratégie de l'anglais et la stratégie du français de manière totalement explicite. C'est-à-dire, si vous partez de quelque chose comme « je ne sais pas qui tu crois que va lire ce livre », ça c'est une violation de l'effet de gel, c'est pas bon. Mais on peut, dans cette langue, effacer le complémentaire, ce qui rend la structure parfaite. Je n'ai pas mis l'exemple ici, stratégie de l'anglais. Mais on peut aussi utiliser la stratégie du français de manière totalement explicite, c'est-à-dire insérer un explétif « there » qui correspond à l'anglais « there ».« There », c'est un typique explétif, par exemple, dans la construction dans la construction existentielle, there is a man in the garden, quelque chose comme ça. Et donc on utilise ce type de there hein, pour sauver la structure. Donc quelque chose comme littéralement, je ne sais pas qui tu crois que expletif lira ce livre est acceptable au niveau où cette configuration un peu complexe est possible. Donc on voit dans cette langue que les deux stratégies de l'anglais et du français sont utilisables. Parlons maintenant de la troisième grande stratégie qui est utilisée par certaines langues un peu plus éloignées des langues décrites jusqu'ici. Par exemple, le quechua, Timbabura quechua, parlé en Équateur, propriété décrite par Peter Cole et Gabriella Herdman, qui ont beaucoup travaillé sur cette langue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Commençons à considérer un cas d'extraction d'un objet, donc en essayant de construire une phrase comme « Qu'est-ce que Maria croit que José a mangé ?» Extraction de l'objet. Ça, c'est possible. Évidemment, ici, l'ordre de mots est différent. Cette langue est une langue SOV, hein, pas SVO, donc sujet, objet, verbe. Et donc, vous avez que la phrase complément du verbe croire, hein, ne se trouve pas après croire, mais avant croire, comme dans les langues SOV de manière assez générale. On va parler du japonais dans quelques minutes pour cette propriété. Donc, on aurait comme structure de base quelque chose comme Maria, José, quelque chose, manger, croit, voulant dire Maria croit que José a mangé quelque chose, n'est-ce pas, avec l'ordre de mots de la langue. Ce qu'on peut faire, c'est sortir l'élément interrogatif correspondant à l'objet de la phrase subordonnée et obtenir cette structure. Ce marqueur tâche est une sorte d'équivalent de est-ce que en français, donc un marqueur d'interrogation. Donc, marqueur d'interrogation, est-ce que, etc. Maria croit que José a mangé. Ça, c'est possible. Mais il y a une autre possibilité pour le cas de l'extraction de l'objet, qui est ce qu'on appelle le pied piping de la structure subordonnée. Alors, pied piping, c'est un terme qui vous rappelle probablement quelque chose dans le conte des frères Grimm, n'est-ce pas? Le pied piper, c'était le joueur de flûte enchanté qui avait qui pouvait se faire suivre par les rats à un moment donné et puis par les enfants. Vous connaissez un peu l'histoire, entre autres les frères Grimm étaient aussi des linguistes, hein, non seulement ils n'avaient pas seulement fait cette série de contes pour les enfants qui est devenue extrêmement populaire, mais surtout l'un des deux a découvert des lois linguistiques extrêmement importantes, Jacob Grimm. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça a à voir avec nos exemples du quechua? Ben, le terme pipe piping a été introduit par un linguiste, un syntaxicien très important, John Robert Ross, qui a découvert beaucoup, beaucoup de propriétés syntaxiques dans les années 60, mais qui s'est signalé aussi pour la grande capacité d'inventer des noms, parfois bizarres, souvent efficaces, pour des phénomènes linguistiques. Alors, il a utilisé ce terme de pipe piping pour indiquer le phénomène suivant. Quand vous avez une structure interrogative, prenez par exemple « Quel livre de Jean as-tu acheté ?» L'élément qui est attiré à la position initiale est « quel », l'élément interrogatif. Mais « quel » a l'effet d'amener avec lui des structures qui ne sont pas de manière intrinsèque interrogative, donc « livre de Jean » par exemple, n'est-ce pas ? Donc ce phénomène, Ross l'appelait pipe piping, la capacité d'un élément d'amener avec lui dans le mouvement une structure plus large, essentiellement. Voilà, donc le pipe piping ici est assez spectaculaire, qui est possible dans cette langue, parce que toute la structure subordonnée peut être amenée dans la position initiale de la structure principale. Donc quelque chose comme « qu'est-ce que Maria croit que José a mangé ?» peut devenir que Maria mange, que José a mangé ou que l'enfant a mangé, est-ce que Maria croit, ou toute la structure subordonnée est déplacée en position initiale, par cet effet de pipe piping. Ceci est certainement rendu possible par le fait que les structures subordonnées ont des verbes qui sont nominalisés. Ce mouvement est typique des structures nominalisées et dans une langue où typiquement les compléments verbaux sont nominalisés, on peut avoir ce phénomène. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans le cas d'une structure où on essaye de sortir le sujet. Bien sûr, le sujet ne peut pas être sorti pour les raisons qu'on connaît maintenant. Qui est-ce que Maria croit que est arrivé ? Ça ne serait pas possible. Mais comment peut-on produire cette structure ? Eh bien, simplement en déplaçant l'élément interrogatif dans la structure subordonnée. À partir de là, il ne pourrait pas continuer le mouvement pour l'effet de gel, mais on peut prendre toute la structure subordonnée, entourée ici en bleu, et la déplacer au complémentaire principal. Et obtenir de cette manière, littéralement, quelque chose comme le deuxième exemple, qui est arrivé, est-ce que Maria croit ? Ce qui veut dire est-ce que Maria croit qui est arrivé, fondamentalement, avec cet effet. Vous voyez, ici, on n'essaye pas d'éviter que l'élément interrogatif passe par la position de gel, on le déplace à la position de gel, mais ensuite, on fait cette opération de mouvement ultérieur de toute la structure. C'est une stratégie qui est possible dans cette langue, qui ne serait pas possible en anglais, qui ne serait pas possible en français, où le pipe-piping, bien sûr, existe, mais c'est beaucoup plus limité à cause de la nature des phrases subordonnées. Voilà, donc ça c'est un peu la manière dans laquelle on discutait toutes ces propriétés dans les premières phases de la théorie des paramètres. Bien sûr, ce qu'il fallait faire à partir de ce point, c'était d'étendre la base empirique, voir si on sortait des langues romanes, si on sortait de quelques langues germaniques, qu'est-ce qu'on allait trouver ? Est-ce qu'on allait trouver un comportement totalement différent ou non ? Évidemment, l'espoir, c'était de trouver quelque chose de cohérent avec ce qu'on avait observé. Par exemple, il y a eu l'article intéressant de Michael Kenstowitz, phonologue, mais qui a écrit certains articles intéressants et importants de syntaxe, qui a regardé certains dialectes de l'arabe. Et il a observé que certains dialectes, par exemple le dialecte Bani Hassan parlé en Jordanie, se comportaient comme l'italien par rapport au paramètre du sujet nul, tandis que d'autres dialectes, par exemple l'arabe, le dialecte levantin, la variété de l'arabe parlé au Liban, se comportaient plutôt comme l'anglais. Hein? Donc on retrouvait à l'intérieur de la vaste gamme d'options explorées par les dialectes de l'arabe, les deux types de comportements. Mais je voudrais ici parler surtout de ce qui se passe en Afrique, au sud du Sahara, parce que là, il y a des comportements extrêmement clairs et qui, d'un côté, confirment ce qu'on a observé sur la langue indo-européenne, sur certaines langues indo-européennes, et d'un autre côté, ça montre aussi qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses intéressantes à observer. Alors, je voudrais en particulier discuter un papier de Enoch Cabo qui parle d'une langue quoi, deux langues quoi, parlées les deux au Bénin, le Gumbe et le Edo Yoruba, proche du Yoruba parlé pas loin, là, en Nigérie. Alors, ces langues se comportent comme l'anglais, tout simplement, par rapport au sujet nul. Et puis, regardez une langue bantou, le Lingala, je me base sur un papier de Saloulessa, qui se comporte comme l'italien, le roumain, sauf quelques différences importantes. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, on est en train de parler ici de quelques langues de la zone rouge et de la zone orange, hein, des langues qu'on appelle, dans la classification de langues d'Afrique, Niger-Congo A ou langue nigéro-congolaise A. ou non bantou et en langue nigéro-congolaise B, ou langue bantou, en effet. Hein, c'est la différence terminologique. Donc voyons ce qui se passe dans cette zone, en particulier pour le Gungbe. On reviendra sur le Gungbe la semaine prochaine en parlant de la cartographie, parce que c'est une langue qui a donné des éléments extrêmement importants pour comprendre la carte syntaxique de certaines zones de la structure de la phrase. Et je référerai en détail au travail de Abo la semaine prochaine. En tout cas, dans ce petit texte qu'il a écrit il y a plusieurs années, Enoch Abo nous dit que, bon, ces langues exigent le sujet prononcé. Donc on ne peut pas omettre le pronom sujet. On ne peut pas dire l'équivalent de « I talked » ou « j'ai parlé ». On ne peut pas dire l'équivalent de « ai parlé ». Il faut prononcer le pronom sujet. Comme toujours, quand il y a une parenthèse et l'étoile, oups, en dehors des parenthèses, ça veut dire qu'il faut prendre le contenu de la parenthèse, autrement la structure n'est pas possible. Hein. Donc, en tout cas, pronom sujet obligatoire. Même chose en Edo Yoruba, exactement la même chose. Et ce pronom obligatoire réalisé peut être référentiel, comme « je », par exemple, « tu »,« il », etc. Ou bien il peut être un explétif, donc un verbe comme « sembler », par exemple, qui exige, en français, en anglais, un sujet explétif, « it seems that ceci ou cela », « il semble que ceci ou cela », eh bien, ce pronom explétif est obligatoire, aussi en Gungbe et en Edo Yoruba. Pas d'inversion du sujet. Donc on peut dire des choses comme « Kofi wa », donc « Kofi est venu ». Mais on ne peut pas dire « Wa Kofi est venu Jean », l'équivalent de « Avenuto Gianni ». Bon, en italien, pas possible ici. Même chose, Edo Yoruba. On a ici aussi l'effet complémentaire trace. On ne peut pas sortir un sujet tout simplement d'une phrase subordonnée, la structure serait grammaticale, sauf si on bouche cette fameuse position sujet par quelque chose. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un pronom résomptif, un pronom qui correspond à la trace, fondamentalement, mais qui est un pronom réalisé. Donc on ne pourrait pas dire dans la langue quelque chose comme « Who do you believe that came ?» Ça ne serait pas bien formé. Mais on peut boucher la fameuse position ici par un pronom résomptif et obtenir « Who do you believe that he came ?» Donc il y a ce pronom qui peut substituer la trace. Beaucoup de langues utilisent cette stratégie en général pour les constructions en question. Donc c'est une manière de rendre la structure possible. C'est une autre stratégie différente de la stratégie qu'on a vue en anglais, en français, en quechua, mais c'est une autre stratégie très utilisée par les langues du monde. Exactement la même chose en Yoruba. On ne peut pas avoir une position vide ici, mais on peut réaliser cette position par un pronom inséré. Même chose si on essaye de sortir d'une question indirecte. Voilà la personne que je ne sais pas si peut venir. Pas bon. Mais on peut mettre le pronom résomptif. Donc, voilà la personne que je ne sais pas s'il ou si elle peut venir. Possible. Même chose. Le paradigme de l'accord est très pauvre. En effet, il n'y a pas d'accord du tout dans cette langue. Vous voyez, tout le paradigme, je, tu, il, nous, vous, il, pluriel. Hop, même forme verbale pour tout le paradigme. Zé, ça veut dire prendre. Ça ne varie pas. Donc il n'y a pas d'accord, en effet, dans cette langue. Même chose en Edo Yoruba, ben, pas de manifestation d'accord. Ce qu'on trouve dans ces types de langues, c'est une série très riche de particules, dont on parlera un peu la semaine prochaine, pour exprimer le temps, pour exprimer l'aspect, n'est-ce pas ? Mais on n'a pas différents types d'aspects, pardon, comme l'habituel, le progressif, etc. Mais pas d'accord. Jamais. Voilà. Donc, nous avons un comportement qui est exactement comme celui de l'anglais, sauf que la stratégie utilisée pour rendre possible l'extraction d'un sujet est un peu différente. Et cette idée du pronom résomptif ou de résomption, comme on dit, pour ce genre de structure. Si nous regardons maintenant une langue bantoue comme le Lingala, parlé dans la République démocratique du Congo, nous observons qu'il se comporte comme l'italien. Par exemple, on peut omettre le sujet nominal ou pronominal, donc on peut dire Abeti part, elle part, ou bien simplement part. N'est-ce pas ? En omettant le sujet, c'est bon. On peut avoir un explicatif nul, donc quelque chose comme semble que blablabla, c'est la forme normale. Avec des verbes atmosphériques, on peut dire la pluie pleut, la pluie tombe, quelque chose comme ça. Mais aussi simplement tombe ou pleut. Donc élément nul. Voilà, il y a une asymétrie ici par rapport au système italien, espagnol, portugais, etc. Pas d'inversion du sujet. Donc, Kiaku est venu, on n'a pas est venu Kiaku. Donc ici, il y a une différence systématique par rapport à l'italien. Par contre, l'extraction du sujet est possible, donc on peut avoir des choses comme Kiaku est l'enfant qui a dit que conduisait la voiture, tout à fait possible, donc vous avez l'équivalent de que suivi de la trace du sujet, d'extraction du sujet. Ça, c'est tout à fait possible. Donc vous avez un comportement comme l'italien, à une différence près, pas d'inversion du sujet. Et puis, bien sûr, le paradigme verbal de la langue a une manifestation riche de l'accord que vous voyez dans ces préfixes ici. Vous avez une forme verbale dans « c'est » et il y a un préfixe qui covarie avec le sujet. Donc « je » avec cette forme, « tu » avec cette forme, etc., etc. Donc il y a cette covariation. Donc un système d'accords riche, exactement comme en italien, comme en espagnol, comme en roumain, sauf que dans ces langues, l'accord est exprimé par un suffixe. Ici, c'est exprimé par un préfixe, quelque chose qui est avant le verbe, mais c'est quand même une forme tout à fait claire et bien distinguée du paradigme d'accord. Voilà, donc il faut maintenant se poser un instant la question du fait que la propriété d'inversion du sujet diffère dans ces langues par rapport aux langues romanes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce cas ? Mais en effet, par la suite, Adriana Belletti, dans ses travaux, avait découvert que l'inversion qu'on a dans des alternances comme Gianni ha telefonato Gianni en italien, n'était pas vraiment une inversion libre. Ce n'est pas un processus libre et optionnel, c'est plutôt un processus qu'on utilise pour exprimer certaines propriétés informationnelles de la phrase. C'est lié en particulier à la focalisation du sujet. Donc quand vous avez l'ordre verbe-sujet, eh bien, c'est parce que vous voulez focaliser le sujet. On le voit ça très clairement, on va parler de focus la semaine prochaine, mais on voit ça en termes de paire question-réponse. Si vous posez une question en italien comme « qui a téléphoné ?» équivalent à l'italien, qui a telefonato, ok, et donc vous donnez, voulez donner une valeur à une variable en position sujet, eh bien vous utiliserez, si vous répondez avec une phrase complète, une structure sujet post-verbale, a telefonato Gianni, chi ha telefonato, ha telefonato Gianni, c'est la forme normale. Vous pourriez répondre bien sûr simplement avec l'expression nominale, mais si vous décidez de répondre avec une phrase, c'est la forme que vous utilisez. Et l'ordre sujet-verbe ne sera pas possible dans ce contexte. Donc, qui a téléphonato, Gianni a téléphonato, ce n'est pas la manière normale de répondre à cette question. Le petit dièse indique que la structure est bien formée, mais pas en ce contexte. Il y a quelque chose de bizarre dans ce contexte. Bien sûr, on peut obtenir des structures de type sujet-verbe si le sujet est en formation donnée. Par exemple, vous pourriez introduire le sujet dans la question. Che cosa ha fatto Gianni? Qu'a fait Jean? E Piero? Quelque chose comme ça. Ici, vous pourriez répondre Gianni ha telefonato. Qu'a fait Jean? Gianni ha telefonato. Ça, c'est parfaitement possible. Et vous ne pourriez pas répondre à cette question en disant ha telefonato Gianni. Che cosa ha fatto Gianni? Réponse ha telefonato Gianni. Pas possible. C'est pas bien formé dans ce contexte particulier. Conclusion. La position postverbale est une manière de sujet postverbal, une manière de focaliser le sujet, d'exprimer une structure où le sujet est nouvelle en formation. Cette propriété est une propriété dans l'analyse de Belletti qui est en partie indépendante du paramètre du sujet nul. Donc c'est une propriété qui est liée à la présence d'une certaine position focale à la périphérie du syntagme verbal. C'est un paramètre indépendant, fondamentalement, qui interagit vraisemblablement avec le paramètre du sujet nul, mais c'est une propriété paramétrique indépendante. Donc, de ce point de vue, pas étonnant qu'une langue comme le Lingala n'ait pas ce paramètre, tout en ayant toutes les propriétés qui sont liées au paramètre du sujet nul. Donc, on commence de cette manière à voir que là où on avait postulé un seul paramètre, il faut en effet postuler plusieurs choses, plusieurs paramètres, parce que la réalité empirique des langues nous impose ce type de considération. Voilà, donc la comparaison avec les langues africaines, d'un côté, nous montre que ces corrélations ne sont pas simplement un phénomène restreint aux langues indo-européennes, mais d'autre part, il montre que, disons, cette comparaison démontre que si on étend la base comparative, l'ensemble des propriétés devient moins stable. Il y a des facteurs ultérieurs de variation, ce qui veut dire qu'il faut multiplier le nombre de paramètres. Et ça, c'est une tendance qui a été suivie systématiquement dans le développement de la théorie des paramètres. Un cas important auquel on a consacré beaucoup d'attention est le cas du portugais brésilien. Pourquoi ? Ben parce que en portugais brésilien, il y a eu un changement de valeur paramétrique de la valeur positive du paramètre du sujet nul, comme en portugais européen, à une valeur négative, mais une valeur négative partielle. Alors ici, je vous montre le travail de Eugenia Duarte, faudrait dire Duarte, en effet, en brésilien portugais, qui a étudié l'évolution de la possibilité d'avoir des sujets nuls en portugais brésilien dans le courant d'un siècle environ, un peu plus qu'un siècle. Et ce qu'elle a fait, c'était de regarder des pièces théâtrales populaires où les gens parlent comme ils devraient parler dans la réalité, n'est-ce pas ? Et donc, elle a simplement calculé le nombre de sujets réalisés par rapport au nombre total de sujets. Alors, vous voyez que, encore à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc 1918, on avait 1/5. Ou 1/4 le sujet réalisé. Si vous regardez encore plus de l'italien, vous trouverez ça, hein, en gros. 1/5, 1/4 sujet réalisé, les autres sont des sujets nuls. On utilise beaucoup la possibilité du sujet nul dans ces langues. Puis il y a quelque chose qui change, certainement en relation avec un changement du paradigme verbal qui s'affaiblit, la manifestation d'accord. Et vous voyez que dans les années 90, on est arrivé à 3/4 de sujets réalisés et 1/4 seulement de sujets nuls. Donc il y a eu, dans le courant de quelques décennies, simplement, un changement important par rapport aux propriétés qu'on regarde. Mais ce n'est pas que les possibilités d'avoir un sujet nul ont complètement disparu de la langue. Il y a des possibilités, par exemple, d'avoir un sujet nul explétif. Est en train de pleuvoir, il pleut simplement, c'est possible, n'est-ce pas Puis, il y a une autre possibilité d'utilisation d'un sujet nul, qui est avec un sujet impersonnel, de type, par exemple, on essaye de dire quelque chose comme « c'est comme ça qu'on fait le dessert », donc l'équivalent de « on » peut être un pronom zéro. Donc, c'est comme ça que fait le dessert. Ça, c'est possible dans cette interprétation. Si vous aviez l'équivalent de ça en italien, ça ne pourrait pas avoir l'interprétation impersonnelle. Ça voudrait dire il y a quelqu'un de précis qui prépare le dessert. Et così che fa il dessert, che prépare le dessert. Mais dans ces langues intermédiaires, d'un certain point de vue, comme le portugais brésilien, il est possible d'utiliser le sujet nul, mais pas dans son utilisation référentielle, mais comme sujet impersonnel. L'équivalent de « on » en français, de « man » en allemand, par exemple. Les langues utilisent plusieurs manières d'exprimer ces sujets impersonnels. Donc, on a identifié sur la base de cette étude et de beaucoup d'autres études des langues à sujet nul partiel. Et il y en a beaucoup. Hein, donc le portugais brésilien, le finnois. Hein, ici vous avez un exemple en finnois avec un sujet nul, correspondant à un verbe atmosphérique. L'hébreu, l'islandais. Aussi le russe, mais la chose est plus discutée, et d'autres, marathi, plusieurs langues créoles, par exemple le créole du Cap-Vert, le papiamento, langue créole, ont ce comportement à sujet nul, partiel. Donc il faut introduire des degrés de sujet nul, et peut-être plusieurs degrés, parce que par exemple l'islandais a un comportement tout petit peu différent par rapport à ces autres cas, ce qui multiplie les cas, essentiellement. Et donc, on n'a plus simplement une nette séparation comme ça, hein, quand on regardait les premiers quatre cas, ou bien une langue a toutes les propriétés, ou bien une langue n'a aucune des propriétés. Puis vous avez ces situations intermédiaires, le lingala, nous avons vu, pas d'inversion du sujet. Le brésilien portugais, il n'a pas d'inversion du sujet, je ne l'ai pas montré, mais c'est une propriété de la langue. Pas de sujet nul référentiel. Donc les choses deviennent plus complexes. Et puis il y a d'autres types de possibilités d'omission du sujet qui ont été discutées en relation avec le paramètre du sujet nul. Par exemple, il y a un phénomène qui a été soulevé, qui a été observé en relation avec l'acquisition du langage. C'est-à-dire, typiquement, on a observé que dans les premières phases d'acquisition d'une langue qui n'est pas une langue à sujet nul, l'enfant typiquement omet le sujet. Donc vous trouvez dans des structures de l'anglais enfantin des structures comme ça. Was a green one, sans sujet, n'est-ce pas? Et c'est typique. En français, vous trouvez cela à tout manger. Pas de petit pronom sujet en danois, etc., etc. Donc on a observé qu'il y a cette phase d'omission du sujet dans le langage enfantin. La première interprétation de cela par Nina Hyams était justement en termes du paramètre du sujet nul. C'est-à-dire ce que Hyams disait, c'était ben, évidemment ce qui se passe, et comme il y a ce paramètre fixé, peut-être l'enfant part de la valeur italienne. Et puis, s'il est confronté à une langue comme l'anglais, il devra changer. En effet, ce qu'on a observé est qu'on a affaire ici à un type de sujet nul différent du type qu'on observe en italien, parce que l'enfant omet le sujet uniquement quand il se trouve en position initiale de phrase, ce qui n'est pas du tout le cas dans une langue comme l'italien adulte, l'espagnol adulte, etc. En d'autres termes, le paradigme qu'on observe dans le langage enfantin, on peut étudier ça par les corpus, des corpora de production naturelle, hein, comme, qui sont cités ici. On a ce pattern. Il est ici, alterne avec est ici, donc l'enfant produit parfois l'une, parfois l'autre. Mais quand la position initiale est remplie par un autre élément, par exemple un élément interrogatif, la prononciation du sujet devient obligatoire. Donc l'enfant dit où il est, mais il ne dit pas où est. D'accord? Et très, très systématiquement, dans beaucoup de langues non assujetties nulles, dans le courant de l'acquisition, on observe cela. On observe une phase de sujet nul limité à la première position, mais pas possible dans d'autres positions. On l'a observé en anglais, en français, néerlandais, allemand, c'est tous des langues non assujetties nulles, suédois, créole jamaïcain. On a observé ce type de choses. Puis, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des langues adultes où on trouve la même chose, où on trouve cette possibilité structurellement très limitée d'omission du sujet? Ben, Liliane Hageman a étudié le cas des registres spéciaux, certains registres spéciaux, comme par exemple le registre des journaux intimes. Elle a constaté que quand on écrit un journal intime, même si on l'écrit en anglais ou si on l'écrit en français, on peut omettre le sujet. Non seulement le sujet de première personne, aussi d'autres sujets. Hein. Donc, ici, Virginia Woolf, So No One, Took the Bus, etc. Et puis, aussi des sujets de troisième personne. Ma compagne au Mercure, puis à la gare, me demande si, etc. etc. Donc, on trouve cette possibilité dans les journaux intimes. Mais est-ce qu'il y a des langues adultes où on trouve un sujet nul avec ses propriétés? Oui, on a trouvé ça aussi. Ça, c'est intéressant parce que c'est un phénomène qu'on a découvert dans le langage enfantin et puis on a montré que c'était possible dans certaines variétés adultes. Par exemple, Gruyère, hein, pays suisse bien connu pour le fromage, bien sûr, on utilise un patois franco-provençal qui a exactement le même type de configuration d'omission du sujet. Donc, le pronom sujet peut être omis. Il travaillait pra alterne avec travaillait pra. Donc, il travaille beaucoup ou travaille beaucoup. Mais quand c'est en position initiale, il faut le prononcer. Donc, pourquoi il travaille, pas pourquoi travaille. Puis, dans cette variété, comme en français colloquial, il est possible d'avoir WH sans mouvement, donc il travaille quand. Ici, vous voyez, le sujet n'est plus, est en position initiale, en effet, parce qu'on n'a pas bougé l'élément interrogatif. Et donc, on peut omettre le sujet. Donc, on peut dire « travailler quand », etc. Ça a été étudié par Schlonsky de Cruza. Donc, c'est exactement le même comportement qu'on trouve dans la grammaire enfantine. On a observé ça dans certaines variétés du Corse, partout, parte. Bon, on peut omettre le sujet, mais quand il y a une position sujet non initiale, par exemple la position sujet d'une phrase subordonnée, il faut prononcer. Donc, partaremo quando no saremo pronti. Donc là, il faut prononcer le sujet non initial, etc. Donc, ici, on a affaire à un type d'omission du sujet qui est distincte, donc il y aura un autre paramètre qui concerne la possibilité d'omission du sujet uniquement en position initiale. C'est ce qu'on appelle le sujet nul de la racine, parce qu'on est tout près de la racine de l'arbre, n'est-ce pas, en position initiale. Donc on utilise cette terminologie. Puis encore autre chose, j'ai cité la semaine passée, le travail de Jim Huang, vous vous souvenez, ses observations très intéressantes sur une langue comme le Pashto. Pashto, langue parlée en Afghanistan, qui est une langue à split ergativity, à ergativité scindée. Et on a vu que dans cette langue, comme la généralisation de Talsen le prédit, on peut omettre ou bien le sujet ou bien l'objet selon quel est l'argument qui s'accorde avec le verbe. Dans certaines structures, c'est le sujet, dans d'autres structures, c'est l'objet, et on peut omettre cet argument. Mais il y a aussi des langues, et des langues parlé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de locuteurs qui ont la possibilité d'un sujet nul, et plus généralement d'un argument nul, qui n'est pas du tout dépendant de l'accord, donc pour lesquels la généralisation de Tarlsen ne vaut pas du tout. Donc là, il y a encore une manifestation différente. Jim Huang a étudié cela en détail en chinois, chinois mandarin. On trouve ça en japonais, en coréen, dans beaucoup de langues de l'Asie, d'Extrême-Orient. Donc, qu'est-ce qui se passe? En chinois, vous avez Zhang Zhan a vu Lizi, par exemple, une particule finale qui ne nous intéresse pas en ce moment. Et là, on peut mettre le sujet. Donc, si Zhang Zhan, c'est quelqu'un de présent dans le contexte, on peut dire simplement a vu Lizi. Mais si Lizi est bien présent dans le contexte, on peut mettre aussi l'objet. Et donc, dire, ben, on parlait de Lizi, ben, Zhang Zhan a vu. C'est tout à fait possible. Et aussi, et le sujet et l'objet. S'il y avait un datif, on pourrait mettre le datif, etc. Donc il y a dans ces langues une stratégie généralisée d'omission d'arguments qui n'est pas du tout sensible aux propriétés d'accord. C'est une autre propriété paramétrique qu'on trouve dans certaines langues, typiquement dans des langues qui n'ont aucune manifestation de l'accord, sujet-verbe, objet, verbes, comme les langues d'Extrême-Orient. Donc le cadre devient complexe. L'approche initiale postulait une seule différence paramétrique, primitive, responsable d'un ensemble structuré de propriétés par interaction entre cette propriété primitive et la structure déductive du système. Mais en enrichissant la base empirique, on a trouvé toute une série de comportements distincts qui nous ont amenés à distinguer au moins ce cas, mais il y en a plus en effet, donc des langues à sujet nul à part entière, italien, langues à sujet nul partiel, supposons par exemple le portugais du Brésil, langues qui utilisent la position focale basse, de nouveau l'italien par exemple, les langues qui ne l'utilisent pas, qui n'ont pas donc l'inversion du sujet, lingala, langues qui admettent le sujet nul de la racine, on a vu quelques cas, et langues où le sujet nul est un cas particulier d'une option généralisée d'argument nul. Donc un cadre beaucoup plus riche, beaucoup plus varié par rapport au cadre initial, ce qui nous permet de garder toute la structure déductive qu'on a introduit, ça c'est très important. Parfois on dit, bon, donc on ne peut plus expliquer par un système avec beaucoup plus de paramètres des comportements cohérents. Non, ce n'est pas vrai. On va voir cela la prochaine fois. Il est tout à fait possible de garder la structure déductive du système, mais c'est une propriété empirique de langue humaine. Il y a beaucoup plus de paramètres par rapport à ce qu'on pensait il y a 30 ans. C'est simplement une considération factuelle. Terminons pour aujourd'hui en parlant d'un paramètre très important, parce que c'est un paramètre qui affecte pratiquement toutes les phrases de la langue, même les plus simples, qui est le paramètre d'ordre tête-complément. Et on verra que là, c'est exactement la même chose. Il faut scinder un paramètre unique en des paramètres plus petits. Donc la tendance est exactement la même. Il y a des langues où la tête précède le complément, tête initiale, et il y a des langues où la tête suit le complément. Il y a des langues totalement cohérentes dans le choix d'être à tête initiale ou d'être à tête finale. Par exemple, l'anglais est totalement cohérent dans le fait d'être à tête initiale. Donc par exemple, le verbe, la tête du syntagme verbal, précède l'objet. Le marqueur de temps ou le modal précède le syntagme verbal. Le complémentaire précède le reste de la phrase. Et puis vous avez des langues comme le japonais, où c'est exactement l'image miroir. C'est-à-dire, l'objet direct précède, ou indirect, complément en tout cas, précède le verbe. Le syntagme verbal précède le modal toute la phrase précède le complémentaire. L'équivalent de que en japonais, ton, est prononcé à la fin de chaque phrase. Donc c'est exactement l'image miroir. Et en effet, ça se voit immédiatement en termes d'arbre. Vous avez un arbre de l'anglais. Ça aurait pu être le français. Hein. Jean a dit que Marie peut rencontrer Bill, par exemple. Exactement la même chose. Verbe précède l'objet direct. Le marqueur temporel ou modal précède le syntagme verbal. Le complémentaire précède la structure de la phrase de manière tout à fait cohérente. Et en japonais, vous avez presque l'image miroir. Pas tout à fait l'image miroir. Si vous regardez cette image, ce n'est pas exactement la même chose, mais au miroir. Parce qu'il y a quelque chose qui reste constant. Le sujet précède toujours le prédicat. Le sujet précède le prédicat en japonais aussi, n'est-ce pas? Mais pour le reste, vous avez que le verbe suit son complément, la marque de temps suit le syntagme verbal, le complémentaire suit la phrase. Donc vous avez ce comportement en image miroir. Qu'est-ce qui se passe du sujet? Ben, si vous regardez dans les langues du monde, et ici j'utilise le WALS, World Atlas of Language Structures, mais comme nous avons appris la semaine passée par Hilda Koopman, il faut maintenant surtout utiliser Terralingua, sauf que le WALS est quelque chose qui a été produit par les typologues par la suite, est encore beaucoup plus riche en termes de données. On ne peut pas poser des questions très sophistiquées à cette base de données, mais au moins dire quel est l'ordre du sujet par rapport à l'objet. Ça, on peut déterminer. Alors, on voit la situation suivante. Si vous regardez les langues du monde qui ont été répertoriées, qui ont été traitées ici, vous avez que l'ordre SOV, donc l'ordre du japonais, environ la moitié des langues du monde. L'ordre SVO, sujet, verbe, objet, c'est de nouveau presque la moitié, donc l'ordre du français, de l'anglais, presque la moitié des langues du monde. Puis, le moins fréquent des ordres fréquents, c'est l'ordre VSO, donc un ordre de type mange-jean-gâteau, mange-jean-le-gâteau, ok? Ça, c'est plus rare, hein, selon les calculs, environ 10%, 8%, etc. Ça, c'est l'ordre qu'on trouve, par exemple, dans les langues celtiques, hein, irlandais, vous trouvez cet ordre, hein, gallois, vous trouvez cet ordre. Ça, c'est les ordres fréquents. Et puis, il y a des ordres qui sont très peu fréquents. VOS, 2%, OVS, moins qu'1%, OSV, pratiquement rien. Okay? Alors vous voyez que ce qui distingue les ordres relativement fréquents des ordres presque non attestés ou très peu attestés est que dans ces ordres, le sujet précède toujours l'objet, ce qui varie la position du verbe. Le verbe peut être à la fin, intermédiaire ou initial, mais l'ordre sujet-objet reste constant. Tandis que ce qui est différent ici, c'est que l'objet précède le sujet. Alors, le plus fréquent des ordres non fréquents est l'ordre VOS qu'on trouve, c'est pas fréquent évidemment, mais on le trouve assez typiquement attesté dans les langues austronésiennes. Langue austronésienne comme le malgache. Hein. Si vous parlez le malgache, vous dites des choses comme « mange gâteau Jean », ce type d'ordre. Là, il est assez clair comment analyser ce phénomène, c'est l'analyse qui a été proposée. Vraisemblablement, au niveau sous-jacent, la langue est SVO avec le syntagme verbal, et puis le syntagme verbal est comme topicalisé, déplacé en position initiale, ce qui donne l'ordre VOS, fondamentalement. C'est ce qui se passe. Les autres ordres sont vraisemblablement obtenus par le mouvement d'une manière analogue, mais vous voyez, il y a quelque chose de clairement spécial dans ces langues. Vraisemblablement, c'est pour cela qu'il y a si peu de cas attestés. Si peu de cas attestés. Voilà, donc ce que cela nous suggère, puis je vais m'arrêter à ce point, Et que si on pense en termes de théorie X-bar, donc de théorie de l'organisation interne des syntagmes, ce qui varie est l'ordre tête-complément. Donc la tête peut précéder le complément comme en français, ou bien le complément peut précéder la tête comme en japonais. Hein. Mais ce qui ne varie pas est la position du spécificateur. Si la position sujet est typiquement une position spécificateur, ça a tendance à rester toujours, hein, toujours initiale. C'est ce qui reste constant dans l'arbre japonais. Là, vous avez les positions sujet qui restent initiales de certaines configuration. Bon, je pense que peut-être je vais m'arrêter maintenant. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.